On this vote, the yeas are 232, the nays are 196. The resolution is adopted.
Donc, 16h51, on va aller rejoindre Raphaël Jacob. Raphaël, c'est un moment historique à Washington parce que la Chambre des représentants a voté pour l'adoption des règles qui vont encadrer le début de cette procédure d'impeachment. Ça ne veut pas dire que ça va se terminer par l'éjection du président Donald Trump de la Maison-Blanche, mais c'est peut-être le début de quelque chose.
Bien, c'est au moins le début de quelque chose qui va être plus formel. C'est-à-dire que, tu l'as bien dit, ce qu'on vient de faire, c'est d'établir des balises qui vont être plus claires. Donc, qu'est-ce que ça implique concrètement? Bien, ça implique que l'enquête qui a déjà commencé il y a quelques semaines va se poursuivre avec certaines règles qui ont été précisées. Par exemple, le Parti républicain, qui est minoritaire à la Chambre, va maintenant avoir le droit de convoquer des témoins, mais n'aura pas le droit de mener des contre-interrogatoires. Ça, on va laisser ça pour plus tard dans le processus. Qu'est-ce qu'on veut dire par plus tard dans le processus? Bien, comment ça va fonctionner? C'est que le comité d'enquête sur l'impeachment va continuer donc à faire son travail. À la suite de ça, il va émettre ses grandes conclusions au comité judiciaire de la Chambre. C'est un comité qui est permanent, qui est toujours là. Le comité en question va rédiger, si le juge justifié, les fameux articles d'impeachment, ce qu'on pourrait traduire en français comme les articles de mise en accusation. Et donc, c'est à ce stade-là, quand ça va être au niveau du comité judiciaire, que là, il va peut-être y avoir possibilité pour le président, la Maison-Blanche, de mener des contre-interrogatoires. Ouais. Et au bout de tout ça, si évidemment il y a articles d'impeachment qui sont mis de l'avant, là c'est la Chambre entière qui va voter. Et si on vote à l'affirmative, ça se ramasse au Sénat. Et là, ça prend les deux tiers, on le rappelle, des sénateurs pour éjecter le président, pour reprendre ton expression.
OK, Raphaël, dans le monde de Trump, tout ça n'est qu'une chasse aux sorcières. Dans le monde réel, c'est quoi les périls qui guettent le président dans ce qui s'en vient?
Bien, les périls qu'il guette sont les mêmes qu'on observe en fait depuis un mois. C'est-à-dire que depuis un mois, c'est pratiquement à chaque jour qu'on apprend des choses qui sont peut-être pas incriminantes, là, je vais faire attention au langage qu'on utilise, mais tout au moins accablantes et problématiques. Donc, le risque pour lui, c'est un petit peu ce qu'on observait avec l'enquête Mueller, qu'il avait, soit dit en passant, également qualifié de chasse aux sorcières, c'est-à-dire d'empoisonner sa présidence, de faire en sorte qu'on ne parle à peu près que de ça, alors que lui voudrait qu'on parle de quoi? Bien, de l'état de l'économie, de la lutte à l'État islamique. Et c'est drôle parce que tu parlais tantôt de la Série mondiale avec Philippe Quentin. Bien, hier, pendant le match numéro 7 de la Série mondiale, la campagne de réélection de Donald Trump a diffusé à l'échelle nationale, dans ce qui était évidemment une émission d'énorme cote d'écoute, une première publicité électorale en vue de 2020. Il y avait deux sujets principaux qui étaient abordés. L'économie, la lutte à l'État islamique. Est-ce qu'on va pouvoir parler de ça ou est-ce qu'on va être consommé par l'enquête sur l'impeachment? C'est ça le gros risque politique à ce stade-ci pour le président, même si au final, il ne se fait pas destituer. Là.
Non, mais en fait, politiquement, disons qu'il survit à cette procédure-là, politiquement, ce qui va sortir des témoignages puis des documents qui vont être révélés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça pourrait lui nuire, là.
Bien, il est exactement là le risque. Et comme je te dis, on le voit depuis quelques semaines, ça pourrait se poursuivre. Une fois que tout ça s'est dit, je veux quand même émettre un contraste avec ce qu'on a comme précédent historique. En 1974, lorsqu'il était question de l'impeachment de Richard Nixon, c'était par un vote de 410 à 4 que la Chambre avait voté pour ouvrir l'enquête. 25 ans plus tard, lorsque c'était Bill Clinton qui était la cible de l'enquête sur l'impeachment, il y avait 31 élus de son propre parti, le Parti démocrate, qui avaient voté pour ouvrir l'enquête. Aujourd'hui, pas un seul élu du parti de Donald Trump, pas un seul élu républicain qui a voté pour mener cette enquête-là. Donc, écoute, il va falloir que tu me convainques qu'il va se faire éjecter dans un contexte où, on le sait, ça va prendre à peu près le tiers du caucus républicain au Sénat pour le destituer, alors qu'il n'y a pas un seul élu républicain qui a voté à la Chambre pour simplement enquêter. Ça donne une idée du climat partisan qu'on a actuellement à Washington.
Puis en même temps, Raphaël, il faut le dire, ces sénateurs-là doivent être réélus aussi. Donc, si ce qu'on apprend dans la procédure devient trop toxique, ça se peut qu'ils décident de le lâcher. Mais je suis d'accord avec toi, on est loin de ça.
On est loin de ça pour l'instant.
OK, tu voulais aussi me dire, il y a des nouvelles données sur les préférences des Américains pour l'Halloween.
Ben, j'ai le goût de te poser la question, est-ce que tu as tu as la dent sucrée ou salée de façon générale?
Salée.
Salée. Bien, devine quoi? L'Université Monmouth au New Jersey a mené un sondage à l'échelle nationale auprès des Américains, à savoir quel était leur bonbon de l'Halloween préféré. Numéro un, en fait, je te laisserais deviner. Est-ce que tu as une petite idée c'est quoi? C'est vraiment surprenant. Mais ça a rapport avec le salé.
Je sais pas.
Reese. Les petits chocolats Reese qui, évidemment, contiennent du beurre d'arachide. C'est un petit aspect salé en plus du sucré. Numéro 1 est de loin, 36 % très loin devant le numéro 2 qui est Snickers.
Très bien, merci beaucoup Raphaël. Écoute, on te reparle demain. Nul doute que les procédures d'impeachment vont retenir beaucoup d'attention dans ta chronique ces prochains jours. Merci. À venir à l'émission, Pierre-Yves McSween va nous parler de la formation des médecins en Thaïlande et Toronto en proie à une épidémie de fusillade. Ce sera le thème de la chronique de Luc Ferrandez.